This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tilt. Je m'appelle Swann Périssé, je suis influenceuse et humoriste, et ça fait plusieurs années que je parle beaucoup d'écologie. Dans 100% des interviews que je fais, on me demande quand est-ce que j'ai eu un déclic écologique, quand est-ce que ça a fait tilt. Et c'est vrai qu'au moment de s'allumer, une ampoule fait toujours tilt. Que quand je capte quelque chose, je fais toujours « Ah !» Et je suis sûre qu'au moment de faire des connexions neuronales, si on pouvait mettre un tout petit micro dans notre cerveau, on entendrait un petit « tilt ». Tilt, c'est le nom du média digital qui sponsorise l'incroyable podcast « Il y a plus de saisons » que vous vous apprêtez à écouter. Ça s'écrit T-I-L-T et sur Insta, ils postent des trucs qui permettent de comprendre et d'agir face aux grands enjeux mondiaux. Il y a du contenu pour comprendre les inégalités.
Systémique, hein, pas la raison pour laquelle votre maman a toujours préféré votre grande sœur.
Le climat, la préservation de la planète et les droits des femmes. Je vous souhaite un très bon spectacle. Ah non, pardon. Un très bon podcast. Binge audio.
Merci d'être là, c'est cool, ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Ce soir, on va accueillir Guillaume Meurice. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Je voudrais vous raconter une petite anecdote. Moi, je pensais que les hommes, tous les hommes qui aimaient l'humour de Guillaume Meurice, c'était des mecs bien. Et j'ai découvert que non. Laissez-moi vous raconter une histoire. Moi, je connaissais Guillaume Meurice, je le connaissais un petit peu, vite fait. Je trouvais ça sympa, mais j'ai vraiment découvert son travail grâce à mon ex, voilà, qui écoutait tout ce que faisait Guillaume Meurice, un grand fan et tout. Mon ex, Michel, on va l'appeler Michel. On l'appelle Michel pour des raisons de confidentialité, mais en vrai, il s'appelle Nicolas. Donc Michel était fan de Guillaume Meurice, il écoutait toutes ses chroniques de gauche. Toutes ces chroniques écolo. Donc on se couchait comme ça le soir dans le lit, on écoutait Guillaume Meurice qui tapait sur les gens qui mangeaient du foie gras, on rigolait. qui tapait sur les chasseurs, on rigolait. Donc moi, je me disais, Michel et moi, on a les mêmes valeurs. Voilà, on a les mêmes envies dans la vie, les mêmes principes. Et un jour, Michel et moi faisons une randonnée. Et on s'arrête devant un paysage magnifique. Voilà, ça faisait des heures et des heures qu'on marchait. On s'arrête devant l'un des plus beaux paysages que j'avais vu de ma vie. Il y avait un lac turquoise, des montagnes tout autour. Et on se pose comme ça, je me pose dans ses bras. Et là, il fait... Comment est-ce qu'on peut croire au réchauffement climatique en voyant ça ? J'ai fait... Qu'est-ce qu'il a vu ? Je vois pas ce qu'il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu ? Un ours polaire qui n'a pas chaud ? Je sais pas. Une éolienne fabriquée en bois, je sais pas. Un puits de pétrole qui pollue pas. Et donc, je me suis rendu compte, comme ça, après un an et demi de relation, que mon ex était... Enfin, que mon mec de l'époque était climato-sceptique. Voilà. Je vois que vous me jugez. Parce que je suis sortie avec un climato-sceptique. Mais voilà, moi, au début, je ne savais pas qu'il était climato-sceptique. C'est pas un truc que tu dis au premier rendez-vous, tu vois. Bah non... Un an et demi, oh et oh, oh. Mais non, mais les climato-sceptiques, ils te séduisent, ils disent pas ça au premier rendez-vous. Tu sais, tu tombes amoureux d'eux, tu deviens émotionnellement dépendant d'eux, et après ils font « Yaaah !» Tu trouves pas que ça caille ? Non, voilà, tu le dis pas au premier rendez-vous. Faut y aller subtil, c'est comme quand t'as des délires sexuels chelous. Voilà, tu le dis pas au premier rendez-vous. En tant que femme hétérosexuelle, au premier date, c'est rare quand même de murmurer à l'oreille de quelqu'un « Moi, ce que j'aime, c'est sodomiser les hommes. » Voilà, non. J'ai perdu tous les hommes de la salle. Pourquoi la chauffeuse de salle nous parle-t-elle de sodomie ? Non, faut y aller subtil, tu vois. La première semaine, tu glisses une allusion. La deuxième semaine, tu glisses un doigt. La troisième semaine, tu laisses traîner un sextoy clairement visuellement masculin. Je sais pas à quoi ça ressemble, un sextoy clairement visuellement masculin. Un sextoy bleu marine. Un sextoy action man. Avec écrit dessus, I'm a man, I love it, but I'm not gay. Genre, je sais pas. Un sextoy qui sait pas faire jouir une femme. Un sextoy, tu le touches, il vibre et pof, y a plus de pull. Un sextoy qui dit, je sais pas pourquoi ça me fait ça. C'est la première fois que ça m'arrive, c'est vrai, je suis un peu stressée au taf en ce moment. Pardon, c'est un peu gratuit cette partie, excusez-moi. Hop, je vous envoie là. Tout ça pour dire que j'ai découvert qu'il y a des climato-sceptiques qui adorent Guillaume Meurice. Et que non, ça n'est plus un critère pour moi. Quand il y a en biographie Tinder, Guillaume Meurice me fait rire. Voilà. Et je me suis rendu compte en faisant les recherches sur cet épisode d'il y a plus de saison que c'est fascinant à quel point Guillaume Meurice est aimé de plein de bords différents. Donc, par exemple, les Guillaume jaunes, les gilets jaunes adorent Guillaume Meurice. Les gens qui écoutent France Inter adorent Guillaume Meurice, les gogos Bochot adorent Guillaume Meurice, les petits vieux qui font leur shopping au marché de Neuilly sur Seine le trouvent très gentil. Et nous aussi, on l'aime. Donc, mesdames et messieurs, un maximum de bruit pour l'enfant le plus insolent et le plus vieux de toute la France, l'un des chroniqueurs les plus écoutés, Guillaume Meurice. Ça va, Guillaume ?
J'ai pas l'habitude des micros, pardon. Ça va très bien.
Quel
merci pour cette confidence.
C'est un plaisir.
Mais tu sais quoi ?
Nulle,
je suis pas très étonné. Je vais t'expliquer pourquoi.
Merci.
Parce que quand c'était la dernière campagne présidentielle, j'avais été au meeting d'Éric Zemmour. Ouais. Et j'ai fait des selfies.
Bah oui, ça m'étonne pas.
Les gars m'ont dit, bon, je pense qu'on est d'accord sur rien. T'es une énorme merde, mais tu me fais rigoler. Est-ce que tu veux pas un selfie ?
Incroyable.
Donc ça m'étonne que moyennement, cette histoire de climato-scepticisme.
Guillaume Meurice, je vais faire un portrait de toi et tu dois te taire pendant le portrait.
Je laisse le micro de côté alors.
Non, tu peux le prendre, t'inquiète. Je suis très heureuse de t'avoir parmi nous ce soir et j'ai une surprise pour vous tous. J'ai aussi invité Benjamin Netanyahu. Je rigole. Il n'y a que moi qui est en prison. Guillaume Meurice, tu es principalement connu pour tes chroniques extrêmement drôles sur France Inter, où globalement tu diffuses des extraits sonores de gens racistes à l'antenne. Tu es né en 1981 en Côte d'Or, d'un père cheminot et d'une mère au foyer. Tes parents avaient monté une maison de la presse et tu racontes que tu étais entouré de gens qui avaient des débats politiques toute la journée et par conséquent avoir eu une enfance scandaleusement heureuse. Donc toi, les gens autour de toi étaient là. Mais on va pas s'en sortir sans taxer le grand capital. Mais la CGT, Dominique, la CGT. Il y a un moment, faut bien s'attaquer aux niches fiscales. Et toi, t'étais là. J'adore le conflit. Je vis ma meilleure vie. Ton rêve d'enfance, c'était d'être stagiaire à Public Sénat, en fait. Avec tes parents de gauche, ton éducation de gauche, c'est tout naturellement que tu t'inscris en IUT de gestion des entreprises et administration. Tes parents ont dû être déçus, mais d'une force. Ils ont dû te dire, on t'avait déshérité, comme bonne personne de gauche. Eh bien, on te hérite, voilà, ça t'apprendra. Faire un DUT gestion des entreprises avec des parents de gauche, c'est un peu l'exact opposé du gosse de riche qui dit à ses parents, père, mère, j'ai décidé de devenir saltimbanque. Et qui part comme ça avec ses cheveux de riche. Toi, t'as dit, papa, maman, je pars diriger des ouvriers, que ça vous plaise ou non! Tu racontes avoir décroché ton DUT en trichant comme un cochon, à l'aide d'une technique qui consistait à photocopier tes cours en tout petit et à les cacher dans les armatures des tables. On est vraiment sur la technique de triche la plus éclatée de toute l'histoire de la triche. Si pour tricher, t'as dû démonter un meuble et qu'aucun prof n'a capté. Finalement, c'est qu'ils le méritent, qu'on leur vole leur diplôme, franchement. Après cette erreur de parcours, tu décides finalement de faire du théâtre. Tes parents sont rassurés, ils te redéshéritent. Pour gagner ta croûte à tes débuts à Paris, tu fais des petits boulots, dont celui de démarcheur ambulant pour le WWF. Vous savez, c'est ceux qui portent des chasubles fluo. Salut, salut. Désolée, je suis aveugle, Voilà, ça c'est une blague hyper politiquement incorrecte que je vais continuer à faire pendant de longues minutes. En 2007, tu sors ton premier one-man show et tu l'appelles « Annulé ». Donc le titre c'est « Annulé ». Voilà, donc personne ne vient en fait. La rumeur dit que tu as voulu lancer un restaurant appelé « Fermé pour manque d'hygiène ». Mais personne n'y est jamais rentré, donc... Niveau humour, tu dis en interview que parmi tes inspirations, il y a Franck Dubosc, Elise Moon et Jean-Marie Bigard. Autrement appelé, le triangle des Bermudes de la lourdeur. Voilà, si on met ces trois personnes ensemble dans une même pièce, ça crée un trou noir qui aspire toute élégance. Il n'y a que Gérard Depardieu qui résiste. Non ! La petite chatte toute poilue ! En 2014, tu débarques sur France Inter dans l'émission de Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek qui s'appelle « Si tu écoutes, j'annule tout ». Bon, voilà, il faut un peu... T'as un vrai souci d'auto-sabotage, je pense. C'est bizarre. Et tu commences à faire des micro-trottoirs. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les micro-trottoirs, ça consiste à parler à des gens au hasard dans la rue et à retenir seulement ce que tu veux entendre. C'est exactement comme rentrer de soirée complètement bourré, en fait. Ta méthode de travail consiste à trouver un sujet d'actu, à aller dans les lieux les plus à droite de France et juste de parler aux gens qui sont là. Et eux, ils disent « Oh bah oui alors, avec plaisir pour dire des phrases racistes au micro de cette honnête journaliste du service public. » Mais les gens, ils te répondent des choses à la limite de la légalité, vraiment. En 2022, tu t'es présenté à la présidentielle. T'as récolté 6 parrainages de maire sur 500 requis pour pouvoir se présenter pour de vrai. Coluche doit bien se foutre de ta gueule, là. Au niveau de tes convictions politiques, tu dis « Je suis pour la redistribution des richesses, contre la guerre et la maltraitance animale, pour que les femmes soient mieux payées. » Bref, rien, Miss France. C'est plus drôle que moi. Tu dis « Bref, rien de bien révolutionnaire. » Alors si, Guillaume, vu l'état actuel du pays, je t'assure que c'est carrément révolutionnaire. Tu vas te représenter en 2027, apparemment. Et vu comment les mentalités régressent ton programme, ça pourrait être juste « Moi, je suis pour respirer. » Et tout le monde sera là « Vous êtes un respiroterroriste, monsieur Meurice. » En fait, à la base, en fait. Ce qui fait que tu n'as pas peur d'aller te confronter à la politique, c'est probablement que tu penses que tout ceci n'est qu'une vaste comédie. Tu dis dans une interview « Je ne crois pas beaucoup au concept d'adulte. Autour de moi, je ne vois que des enfants qui jouent aux grandes personnes. » Il n'y a que deux types de personnes qui peuvent prononcer cette phrase. Toi et un pédophile dans une cour d'assises. Je ne crois pas vraiment au concept d'adulte, ni à la théorie de la puberté. Tu es un écologiste revendiqué. Tu défends particulièrement la cause animale. Tu racontes que tu adores emmerder les gens qui en mangent devant toi. En fait, ce que tu fais, c'est que tu montres des images trop mignonnes d'animaux encore vivants. Et tu dis, regarde, ton tartare de veau, il s'appelait Gustave, en fait. Il avait 6 mois quand il s'est fait trancher la gorge. Et ses parents crient son nom tous les soirs dans leur prison métallique glaciale en Bretagne. Bon appétit. Tu es parrain d'une association qui s'appelle 7AC et qui défend les cétacés. Bon. Non, c'est le pire jeu de mots que j'ai jamais entendu de ma vie. Pour tous ces éclats de rire, pour toutes les fois où on a pu s'éloigner un peu du réel tragique grâce à tes commentaires aiguisés, pour ton empathie, ta gentillesse, ton engagement pour les animaux, merci pour tout, Guillaume, et merci d'être là ce soir.
T'as rigolé ?
Oui, c'était très rigolo. Où est-ce que t'as lu Dubosc, Bigard et quoi ? C'était quoi les Avengers, là ? Élise et Moon ?
Ouais. En vrai, c'était Dieudonné. Mais... Je vais pas assumer, là. En fait, Dieudonné, il est connu pour être antisémite, pas pour être lourd.
Ah oui,
allez,
donc
et donc...
Moi, je propose qu'on ait un débat.
On va pas l'enfoncer.
Je propose qu'on parle de Dieudonné pendant une heure. Allez, ça ferait du bien à tout le monde.
Et ensuite, d'Israël.
Et je crois que Coluche, il avait pas de parrainage du tout.
C'était à dire.
Bah, c'était à dire qu'il avait 0 parrainage, alors que j'en ai quand même eu 6. Donc, merci beaucoup, la précision.
Que Nucléicon, donc,
Moi, j'aime bien rire, mais j'aime la précision aussi. Hein.
C'est vrai. Est-ce qu'il y avait d'autres choses fausses dans le roast ?
Pas tant.
Vous savez pas, mais il m'a foutu la pression avant de monter sur scène. Il m'a dit, je me suis fait roaster une fois, c'était nul.
Ouais, c'est vrai. Mais là, c'était bien, voilà.
Il m'a dit, j'espère que je vais rire. Il m'a regardé comme ça. Et attends, et on était là derrière la porte, et j'étais un peu stressée, tu vois, j'étais là, franchement, quel métier bizarre et tout. Il m'a dit, n'oublie pas qu'il y a des gens qui meurent à Gaza.
J'aime bien m'être à l'aise, en
oui,
fait.
Oui, oui, je sens. T'as grandi dans les années 80, dans une famille qui parlait beaucoup de politique. Est-ce que tu te souviens à quel point l'écologie était présente dans les discussions ?
Oui, parce qu'on me forçait à faire les manifs. Moi, mes parents, ils étaient adhérents à Greenpeace. Et ils votaient écolo à l'époque où personne ne votait écolo. Les gens, ils se foutaient de leur gueule. Et donc, ouais, très tôt, bah, j'ai toujours vécu là-dedans, quoi. Le climat va changer, etc. Les espèces vont disparaître, la prise de conscience, tout ça. Donc, j'ai quasi aucun mérite à être ce que je suis devenu idéologiquement, on va dire. J'ai juste suivi mes parents. Au début, à l'adolescence, j'étais là, ouais, ils font chier avec leurs conneries. N'importe quoi, gna gna gna. Et puis, j'ai eu un petit déclic un peu marrant. J'ai vu une conférence de Noël ma mère. Ça fait pas rêver comme ouais, ça. Hein.
Mais et là, t'es devenu écolo.
Et non, mais je me suis dit, putain, mais c'est ce que me disent mes parents.
Mais heureusement qu'ils t'ont pas fait écouter un discours de Vladimir Poutine ou je sais pas, genre le mec.
Ouais, c'est vrai, ça aurait pu être intéressant aussi.
Aucune personnalité.
Non, mais je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est le discours que j'entends depuis que je suis gamin et ce mec-là semble avoir raison. J'ai été renseigné et voilà, et je me suis dit, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. Et aujourd'hui, même Éric Ciotti, il se dit écolo. Quand même. Jean-Michel Meurice, Solange Meurice, Éric Ciotti sont désormais dans la même équipe.
J'ai vu dans une interview que tu dis que tu rejettes toute forme de militantisme.
Alors, je rejette pas ça, comme ça, en faisant des petits guillemets avec mes doigts.
Je rejette comme
non,
ça.
Non, je me sens pas. Non, je me sens pas militant parce que j'ai beaucoup de respect pour les militants. C'est des gens qui vont coller des affiches, se taper des réunions publiques, etc. Essayer de convaincre. Moi, j'essaye jamais de convaincre. Je donne juste mon avis. Après, les gens me font savoir que c'est de la merde régulièrement. Possiblement, ils ont raison. D'autres me font savoir qu'ils aiment bien. Possiblement, ils ont raison. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est créer... Bon, ça s'est vu un peu récemment. Ce que j'aime bien, c'est créer le débat. Des fois, je réussis bien. Débat, hein. Ouais. Des fois, j'ai fort. Hein. Et c'est tout. Donc, c'est pour ça que je ne me considère pas comme militant, mais je ne rejette pas le militantisme. C'est nécessaire, évidemment.
Il y a plein d'humoristes qui vont traiter des sujets, mais de façon... moins biaisés ou partisanes, pas dans le sens un parti politique, mais qui vont moins orienter leur comédie que toi.
Ouais, mais parce que moi je me sers des blagounettes pour dire ce que je pense. Je fais plutôt l'inverse, moi. C'est pour essayer de pas trop être chiant que je mets des blagues dedans. Sinon je suis méga chiant. Regarde là, je suis chiant. Les gens en ont marre. Et donc ça marche plutôt dans ce sens-là. Mais je pense que chaque humoriste fait avec ses obsessions, on va dire. Donc moi, mon obsession principale, c'est tiens, comment ça se fait qu'on ait des grosses merdes collectivement, tu vois, je me mets dedans. Comment ça se fait que l'Homo sapiens, qui se place au-dessus de la biosphère, etc. Comment ça se fait qu'il n'arrive pas à vivre deux jours sans s'entretuer?
Et du coup, dans ton écriture,
baisser les APL.
Dans ton écriture, tu dis je voudrais raconter ça sur l'actu, et après tu fais des vannes autour.
Ouais, alors ça dépend des formats, parce ouais. Que là, tu l'as dit tout à l'heure, je fais pas mal de micro-trottoirs. Ouais. Et donc là, ouais, précisément, je me dis, tiens, quel est le sujet? Bon, je fais pas mal d'actu, puisque c'est sur France Inter, c'est un peu le taf qu'on fait dans l'émission de Charline. Par exemple, là, hop, un sujet d'actualité, l'école privée, par exemple. Je me dis, tiens, je voudrais parler de ça, qui je vais pouvoir interroger? Alors peut-être à l'Assemblée nationale. Peut-être devant une école privée, interroger des élèves. Après, tu choisis un angle. Mais je pars toujours du sujet, ouais.
Donc, la cause animale te tient très à cœur. Et donc, moi, je voudrais savoir... Parce qu'en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être végétarien. Et donc, est-ce que c'est ton rapport à la nature? Parce que tu as grandi dans la nature. Tu es allé à la chasse aux champignons, entre autres. On pense à Timothée Barik. Est-ce que c'est parce que tu as regardé trop de vidéos de L214? Ou est-ce que c'est la lecture des rapports du GIEC qui t'ont chauffé à devenir végétarien?
Non, c'est... Alors, beaucoup de discussions avec des potes qui étaient végétariens. Et moi, j'aime bien les discussions, j'aime bien les débats, je l'ai dit. J'aime bien... Ça, le conflit ne me dérange pas. Et j'avais vraiment zéro argument, ou alors les arguments les plus pétés que j'entends aujourd'hui, le cri de la carotte, le petit boucher que je connais. Tu sais, tout le monde a un petit boucher au coin de sa rue qui connaît le nom des vaches qui butent.
Oui,
et qui leur fait des massages du périnée avant.
En fait,
bah,
les
tout
gens
moi,
qui disent,
ça,
les gens qui disent je connais mon boucher, c'est des... Enfin,
peine de mort. Moi, je suis contre la peine de mort en général, mais là, peine de mort et on les bouffe en entrecôte.
Les gens
en
qui ont un boucher sympa, ils pensent qu'ils tuent bien les
tout
animaux.
Le ouais, c'est ça. Donc, j'avais vraiment tout ce genre d'arguments éclatés. Et je voyais bien que je ne m'en sortais pas. Et le dernier argument dans ce genre de conversation, c'est le goût. Parce que c'est vrai, bon, bah, c'est bon. Mais ça ne suffit pas à buter des animaux par paquet de mille de manière industrielle comme on le fait aujourd'hui. Donc, je suis arrivé à un point de dissonance cognitive où vraiment je me disais à chaque fois que je mangeais de la viande, bon, je pense que tu es vraiment un connard. Donc, dans un souci de bien cohabiter avec moi-même, j'ai arrêté.
Et ça nous amène avec
transition.
Une transition subtile, avec un petit jeu.
Ah, je pensais qu'il y avait une vache qui allait arriver. Alors, c'est fou.
Et on va la découper et en faire des steaks. Et ça sera bon.
J'adore les jeux.
Ouais.
J'espère qu'il va être bien. Un jour, j'ai joué à un jeu, c'était de la merde. Oh.
Ta gueule. Et
pense à la Cisjordanie.
Pense à la Cisjordanie. Alors, parmi les gens qui te détestent particulièrement, il y a les chasseurs. Quelle surprise! Et ces gens sympathiques qui se lèvent très tôt le dimanche matin pour tuer des cyclistes.
Pour réguler les cyclistes.
Voilà, c'est ça. Hyper fort, putain. Vous vous rendez pas compte comment ça fout la pression pour une humoriste d'interviewer un humoriste ? À
c'est
tout
injouable,
moment, il fait mieux la vanne que moi, comme le mec de Miss France là-bas, là. Ouais, j'étais bien mal à l'œil, ouais.
Ouais, en plus, il te l'a dit en te jugeant un peu,
ouais,
genre.
Il a fait Miss France, tout le monde attend la vanne, donc... Je vais le dire parce que le timing ne va pas, donc...
Viens, on le vire, dégage. T'as vraiment un public dégueulasse, toi.
C'est vrai, j'ai vu leur tête. Je te prends... Restez concentrés, s'il vous plaît. Je vais te dire des arguments pro-viande, parce que t'as commencé à les sortir. Et en me retournant vers le public, qui va jouer le rôle de mes potes chasseurs, qui rigolent grassement à mes blagues beauf. Donc, attends, d'abord, on va s'entraîner au rire beauf.
Oh, putain, c'est bien.
Faut que ce soit plus immédiat. Moi, je dis des trucs, vous faites... Et après, toi, t'essayes de me répondre calmement. En étant extrêmement drôle, sinon tout le monde va être extrêmement déçu, Guillaume.
Ah, ça, c'était un vrai rire gras.
Elle me risse. Ou bien je devrais dire l'homme soja. Le type qui mangeait que du foie. Non, mais sans déconner, pourquoi on se passerait de viande alors que l'homme, il a toujours bouffé de la viande de tous les temps? Il n'a pas compris la question ou quoi?
Si, mais souvent, je laisse un silence comme ça. J'attends que la personne ait...
Ah, t'es pas habitué à ce qu'on te pose tes questions
et
à toi.
Fini. Hein. Mais si, on les pose tous les jours. Est-ce que t'es végétarienne, toi? Allez, voilà. Allez, je me casse, terminé.
Non, mais je connais mon boucher et...
Tu saurais si tu étais végétarienne qu'on te pose ces questions-là tous les jours.
Non, mais je suis pas végétarienne.
Mais je ne te juge pas. Si, de ouf.
Je mange très peu de viande. Mais
bon, elle est venue en yacht jusque-là. La honte. Cette meuf est une imposture totale.
Est-ce que...
Non, alors, oui, alors, qu'est-ce qu'on répond à ça?
Ouais, l'homme a bouffé de la viande
depuis tout le temps. Oui, mais c'est faux. Tous ces trucs-là, c'est du fact-checking, quoi. C'est juste faux, parce que c'est quand même beaucoup plus fastoche de bouffer des graines, des baies, de cueillir des pommes, que d'aller chasser le mammouth. Mais c'est l'image très viriliste des hommes qui vont chasser le mammouth pour amener la viande au
ça
foyer.
M'excite. Ouais. Pardon.
Putain, viandard et viriliste, on commence à avoir une petite idée de à qui on a affaire.
Bon.
Et je suis pas déçu d'être venu, tiens.
J'enchaîne, laisse-moi
Allez,
parler.
Enchaîne.
Anorexique, va. Tu devrais manger de la barbaque, Guigui. Sinon, tu vas avoir des carences de partout. Des carences en grosses couilles, surtout. J'ai pas raison.
Mais du coup, maintenant, je t'imagine les écrire au premier degré. Hein. C'est vraiment... C'est perturbant. Ça, c'est fastoche. Il y a une longue liste de sportifs de haut niveau vegan, dont des gars qui sont hyper forts à la bagarre, dont j'ai oublié le nom. Parce que je ne m'intéresse pas aux gens hyper forts à la bagarre, mais à Djokovic, par exemple, il est vegan. Bon, il est anti-vax, ok, mais il est vegan. Donc ça, argument éclaté également. Suivant.
Non, mais sérieusement, Guimauve.
Ok, on s'arrête là. Suivant.
Si tu manges pas de viande, t'as pas de protéines. Donc c'est normal que tu sois tout mec comme un bambou. Allez, j'enchaîne. Je comprends pas, Meurissette. Ça... Tu passes ton temps à vouloir le bien-être animal et tu viens emmerder les chasseurs. Alors que nous, contrairement à la viande de supermarché qu'on tue en abattoir, nous on tue et on mange de la viande locale et sans la faire souffrir. J'ai dit vachement de mots compliqués là, non?
Attends, ça c'est intéressant parce que c'est vrai.
Merci.
Ouais, je respecte beaucoup plus un chasseur qu'un patron d'abattoir. Ça c'est sûr et certain. Oui, à la limite, si le seul problème de la souffrance animale c'était la chasse. Je pense qu'il n'y aurait plus beaucoup de problèmes. Mais là, quand on parle de consommation de viande, on ne parle pas du gars qui va se lever le dimanche matin pour prélever du chasseur
non, mais
de champignons.
C'est vrai que tu as des opinions nuancées sur les chasseurs. S'il y a des chasseurs qui mangent que la viande qui tue, déjà,
oui,
c'est mieux
ça me dérange moins. Ouais, ouais,
voilà,
ouais.
Que les gens qui mangent que de la viande industrielle. Je reprends mon personnel.
Oui, tout à fait.
Hey, on est entre nous. La viande, c'est super bon, non?
Et voilà, alors on en revient au principal problème, c'est qu'effectivement, c'est bon.
Mais merci pour ton honnêteté, Guigouche.
Mais potentiellement, une cuisse de bébé, c'est bon aussi.
Waouh. J'ai l'impression qu'il m'a montré la photo du veau, là. Ok, c'est la fin du jeu. Voilà. J'ai très bien joué ce personnage. Merci beaucoup. Merci. Merci. Tu as sorti ce livre. Peut-on aimer, enfin ce petit livre de 32 pages, ouais. Peut-on aimer les animaux et les manger? Et oui. À l'intérieur, tu t'adresses à la jeunesse. Pourquoi?
Parce qu'on me l'a demandé. Non, c'est une collection
sinon,
chez
Sinon, elle ne me payait
Ant.
Pas. Donc...
non, qui est intéressante. C'est une collection intéressante qui s'adresse à la jeunesse, ouais. Ou 15-25, je crois. Ils ont leur cœur de cible. Et il y a tout un tas de thématiques, l'information, l'avortement, enfin voilà, des choses assez costauds, quoi. Et moi, ils m'ont demandé de faire un petit... Alors, ils m'ont demandé d'abord un petit essai sur le végétarisme. Mais les essais, c'est souvent hyper chiant. Donc, j'ai écrit un dialogue entre deux amis qui se retrouvent pour bouffer... dans un resto, un qui mange de la viande et une qui ne mange pas. Et j'ai piqué clairement l'idée à un gars qui s'appelle Platon.
J'ai entendu parler.
Petit succès, mais il y a longtemps. Quoi. Après, il avait eu un bad buzz sur CNews et du coup, il a arrêté complètement. Et c'est plus facile d'exposer les arguments dans un dialogue plutôt que de dire « Alors, on dit ça de la viande, mais c'est faux, nanana, on dit ça de la viande, etc. » Donc, je voulais rendre ça un peu joyeux, vivant et amusant.
Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui militent pour plus d'écologie, qui pensent que ça peut beaucoup passer par les enfants. Il y a plein de formations à l'école et tout. Est-ce que toi, tu crois que les enfants, ils peuvent avoir un impact sur les adultes?
De toute façon, tout, là, on n'a pas le luxe de choisir où est-ce qu'il faut... agir ou qui il faut cibler, ouais. Bah, évidemment, oui, l'éducation. Et on peut s'appuyer sur le fait que, notamment, les enfants, ils sont sensibles aux animaux quand même hyper jeunes, quoi. Dans toutes les littératures jeunesse, il y a toujours un lapin et une tortue qui font des conneries. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment on les fait switcher. C'est-à-dire que souvent, à l'école, tu as le lobby de la viande qui débarque en disant « Alors, le lapin et la tortue, c'est intéressant, mais il faut quand même buter des vaches pour les manger. » Du coup, ils ne disent pas « buter des vaches », ils disent « protéines, équilibre alimentaire », tout ce genre de conneries. Quoi. On sait aujourd'hui que c'est des conneries. Donc, ils sont plus malins. Et souvent, ils font en sorte que les gamins ne fassent pas le lien entre l'animal et ce qu'ils ont dans leur assiette. Ce qui donne des trucs incroyables avec le poisson pané ou les nuggets, où les gamins ne savent même plus que c'est...
Des animaux.
Ouais.
Et c'est comme ça que tu as eu le tilt, le déclic entre passer de végétarien à vraiment végétarien. C'est quand tu as coincé une petite, non?
Alors,
hyper
attention.
Bizarre, je vais donner
attention.
Le contexte. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, monsieur Miss France.
Il y a beaucoup de chefs d'inculpation depuis le début de cette émission.
T'étais au salon de l'agriculture. Il y avait une petite qui adorait une vache et qui a dit, elle est trop mignonne la vache. Et t'as fait genre... Tu la mangerais? Et elle a fait quoi? Non. Et t'as fait, eh ben, tu risques de la manger ou un truc comme ça, c'est
ouais,
pas
c'est ça,
ça
ouais. Je lui ai dit, t'aimes bien les vaches? Et elle était vraiment au salon de l'agriculture. C'est génial parce
c'est
que les vaches, elles sont pomponnées et tout, elles ont des rubans, elles sont brossées et tout. C'est vraiment, c'est Miss Monde, quoi. Et après, elles font un petit tour de machin, hop, elle a une note, après, ils la butent, quoi.
Wow.
Et là, il y avait une petite fille qui était là en train de caresser une vache, enfin, tu vois, en amour et tout. Et j'étais là voir en disant, ouais, t'aimes bien les vaches? Et t'as, oui, oui. Je dis, t'aimes bien les steaks? Elle fait, oui. Ben, je dis, là, t'es en train de caresser un truc que tu vas bouffer, en fait.
Et après, tu l'as mis dans ta chronique et tu t'es
ouais,
dit.
Je me suis dit, en fait, je m'en suis servi pas comme déclic, mais comme prétexte. Je me suis dit, si je le diffuse, je peux pas continuer à manger de la viande. Donc j'ai arrêté.
Tu
donc, je peux dater précisément le jour où j'ai arrêté. C'était au salon de l'agriculture en 2015.
Pas tant une merde que ça. Ça va. En avril,
Je suis pas végane, donc en vrai, je suis quand même une merde.
Non, c'est vrai, j'osais pas le dire.
En fait, j'anticipe les commentaires qu'il y aura sous ta vidéo. Ouais, bah il fait le malin, mais n'empêche, pas végane. Je les imagine comme ça, les gens qui mettent des commentaires.
Ils parlent tous comme ça, hein. Ouais. Ils parlent tous comme ça. C'est pas vrai. Ce sont des gens très courageux qui parfois sont un peu intenses sur les réseaux sociaux. Mais franchement, c'est les plus engagés d'entre nous qui vivent en ville, en tout cas.
Oui,
vegan, ouais.
On les aime.
Oui. Il a perdu ses cordes vocales. Oui,
comme Pascal Praud quand il s'énerve, il part dans les aigus.
Mais c'est pas possible. Mais enfin.
Il y a son surmoi qui le quitte. C'est son surmoi, il fait aller nique. Ah, il se barre en régie, il dirait tout ça comme ça, mais alors. Pardon. Je pouvais pas passer un moment sans parler de Pascal Praud et je suis vraiment désolé.
Il fallait. En avril 2023. Il y a un incendie d'une gigaferme au Texas qui a donc c'était une ferme dans laquelle j'allais dire poussaient des vaches, c'est terrible, dans laquelle il y avait beaucoup de vaches pour les manger. Et donc il y a eu un incendie et ça a causé la mort de 18 000 vaches. Donc voilà, pas 18 vaches, pas 1000 vaches, mais 18 000 vaches. Et malgré ça, on continue aujourd'hui de créer des gigafermes animales
comme les fermes, immeubles à cochons en Chine ou plein de, d'autres horreurs. Et vraiment, c'est, je pense que tu pourrais répondre en 4h30, mais pourquoi ça nous fait rien, à ton avis? Pourquoi les gens continuent à manger de la viande?
Alors, il y a une phrase de Paul McCartney qui dit « Si les murs des abattoirs étaient transparents, il y aurait quand même... » Alors, je crois que lui, il dit « Tout le monde serait végétarien. Bon, »
Peut-être qu'il le dit en anglais aussi, mais je ne vais pas t'infliger ça.
Oui, very good accent. Yes. Et oui, ça participe. Moi, c'est pour ça que je soutiens beaucoup l'action de L214 qui fait en sorte de rendre les abattoirs, enfin, ce qui se passe dans les abattoirs, visible de tous. Et au début, c'était rigolo parce que moi, je les suis depuis vraiment longtemps, quasi le début. Et au début, ils sortaient une ou deux vidéos. Et l'argument de lobby de la viande était de dire, bah, forcément, c'est un seul abattoir. Oui, il y a des dysfonctionnements. Là, ils en sont à 275 000 vidéos. Il y a peut-être un problème structurel, non, systémique. Donc oui, de la formation, ça, je pense que ça ne suffira pas. Pourquoi, ta question, c'était pourquoi nous, en tant que consommateurs?
Ouais, pourquoi les gens continuent à manger de la viande, même si on sait tout ça? Mais je pense que... Enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis.
Il y a beaucoup de choses,
effectivement.
Et
il y avait des enfin, je crois que les abattoirs, avant, ils étaient même en ville. Et maintenant, on ne sait pas où ils sont.
Ouais, ouais.
Sauf quand tu es agriculteur, agricultrice. Ils sont...
Non, mais il y a le poids, surtout, il y a le poids des habitudes. Ouais. Quoi, le poids des... En fait, c'est coûteux, socialement, de devenir végétarien, parce que quand tu vas te retrouver au fameux repas de Noël, ou même avec des potes, on va te poser la question, tu vas vite passer pour la personne chiante à qui il faut faire un plat spécial, parce que c'est de la viande est devenue la norme. Mais ça, c'est hyper récent qu'on mange autant de viande. Donc les habitudes, ça se prend et puis ça se perd également.
C'est vrai. Et
ouais.
Il a raison.
Mais,
il a raison.
Putain, il a raison.
ça va, je mange pas de la viande tous les jours non plus, calmez-vous.
Mais
non, mais en vrai, j'en mange hyper peu, mais...
Est-ce que parfois, tu veux nous en parler?
Parfois, je vais acheter des nuggets, je vais me faire tuer, putain. Parfois, je vais acheter des nuggets et je suis comme ça, j'ai une casquette, genre une doudoune cachée et tout. Et il y a la meuf du McDo qui me dit « Swan Périssé !» Je suis là, putain. Oui, mettez-moi un sandwich aux chèvres. Oh, super.
Sa jumelle maléfique.
Elle me dit,
qui se nourrit que de viande. Ceci dit, c'est vrai que tu avais raison dans ta présentation. Je sais pas où j'ai raconté ça, mais les gens qui mangent de la viande devant moi, souvent, je cherche des images d'animaux mignons et je dis « Oh, regarde, il cherche sa maman. Peut-être t'es en train de la manger. » Et des fois, je fais pleurer les gens avec ça.
Ouais, bah,
j'aime bien.
C'est une bonne stratégie. Waouh. Je connais toutes tes critiques contre les éco-gestes et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Vert chez vous, V-E-R-T chez
L'enfer.
Vous.
L'enfer.
Ouais, c'est ça. Pour moi, je pense que ça te ferait faire une crise cardiaque, vraiment. Je
dis, le genre, colibri.
Ouais, c'est ça, fois mille, genre.
Moi, je suis pour manger du colibri.
Je dis, oh, écoute. Et tu sais, je dis aux gens, genre, regardez, vous pouvez faire votre propre frigo du désert. Comme ça, vous pouvez débrancher votre frigo. J'ai construit des toilettes sèches à travers toute la France. J'ai même sorti mon propre shampoing solide. Calme-toi.
Et après, et... entrecôte. Allez, hop là,
oh.
Le soir, ça y va. Remettez-moi du Biandox. Ça m'a épuisé, non, cette journée de tournage des
Fogestes. J'ai fait au moins 5 vidéos.
Alors,
c'est la vidéo qui va m'obliger à être végétarienne pour toujours. Ça, c'est mon déclic. Moi, c'est moi l'enfant, là, devant la vache, là. Putain. Imagine combien de gens vont m'insulter sous la vidéo, putain. Ils jubilent.
Surtout que c'est facile, quoi.
Je vais poster la vidéo sur des groupes de chasseurs, franchement.
Tu sais, c'est pas un truc qu'on te demande de faire. Il faut juste dire, vous voulez de la viande? Non. Et hop, t'es végétarienne. C'est quand même pas un truc
non,
dingue.
Mais attends, mais en vrai, j'étais... En fait, je suis végétarienne, c'est
ah,
juste que...
Ah, pardon, on n'avait pas compris.
Mais non,
parce que
mais...
comme ça fait 25
que
minutes
mange...
que tu dis que tu manges de la viande,
non,
l'information
mais
n'était pas...
Non, mais j'en mange une fois tous les 3 mois et je le dis pas parce que j'ai pas passé le cap complètement. Mais je fais des gros efforts, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, putain. Non, mais t'as raison, je suis une merde, voilà.
Tu vois, y a rien besoin de dire.
Je suis une merde.
Alors,
est-ce que je peux savoir, par applaudissement, qui est 100% végétarien, 100% du temps, et qui ne l'est pas? Qui ne l'est pas? Levez la main, bande de petits cons! Ouais, flexi mon cul, ouais. C'est ça.
On pourrait titrer la vidéo « Flexi mon cul ».
Elle connaît son boucher. Alors. En vrai, je fais ma promo sur Vert chez vous, j'ai fait plein de vidéos sur le végétarien.
Donc, oui, les éco-gestes, vas-y, oui.
Donc,
allons-y.
Merci.
Puis c'est sous la douche, etc. C'est cool.
Donc.
Emmanuel Macron, il adore ça.
Ouais, là, là.
Tu fais des partenariats, tu fais des partenariats avec lui.
Calme-toi.
McFay et Carlito, Swan Périssé.
Justement.
Allez, on fait un roast de Swann Périssé.
Ah, non,
t'as pas bossé, tu sais pas qui je suis, ta gueule.
Fais gaffe, fais gaffe.
Vas-y.
Non, 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 non.
Fais un roast de Swann Périssé.
Allez,
vas-y.
Allez.
Montre comment c'est simple.
Les savons liquides vont changer le monde. Allons-y sur cette. Attends.
Non, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que si t'es végétarien, c'est qu'au fond, tu crois un peu que si on veut un changement de masse, on peut aussi l'initier un peu nous-mêmes. Et qu'on peut forcer nos dirigeants en montrant qu'on est une masse à vouloir le changement. Ça devient super sérieux.
Oui, c'est effectivement une stratégie. Mais je pense qu'on n'a plus le temps pour cette stratégie et qu'il va falloir les contraindre autrement. Comment ? Je ne sais pas tout à fait encore. Mais clé de bras, voilà. Alors, je propose de faire un grand moment de convention citoyenne. D'intelligence collective, donc on a clé de bras, ben ça peut être une solution par exemple. Ceci dit, c'est intéressant, clé de bras, ouais. pour extrapoler un peu, parce que c'est des gens qui ne connaissent pas la violence physique, ouais. Les gens qui nous gouvernent. Donc ils ont eu très peur, par exemple, pendant les Gilets jaunes, de se faire casser la gueule, mais physiquement.
Ouais.
Ben, c'est pas des gens de bagarre, c'est des gens qui ont été dans les lycées privés, bon, voilà, etc. Toujours un petit peu planqués, donc là ils se planquent derrière des CRS qui tirent sur les gens. Donc est-ce que la clé de bras est une solution? Est-ce que ça suffira? Peut-être pas, mais leur faire peur. Comme ça ou autrement, c'est une piste, ouais.
Et voilà, on incite à la violence en toute subtilité.
C'est lui, c'est lui. On a ses coordonnées, de toute façon. Il est fiché S.
Tu
non, mais
sorti...
surtout, ouais. Surtout, vas-y, je finis sur les... Non, mais je veux pas, évidemment, oui.
Non, mais
faut
moi,
éteindre les lumières
ça...
quand on sort de la pièce.
Ouais.
Mais en fait, c'est... Non, mais oui, je l'ai dit de manière un peu condescendante. Ouais, je m'en suis rendu compte. Même moi, j'étais pas à l'aise sur la manière dont je l'ai dit. J'ai même un peu fermé les yeux sur moi en faisant oui, comme ça. Les gens, ils pensaient assez insupportable. Ils font des apnées des yeux. Oui, non, mais bien sûr. Bon, c'est pas le sujet. Non, mais surtout, ça sert de caution au problème. En fait, le problème qu'on a, pour résumer, on pourra terminer là-dessus, c'est un truc qui s'appelle le capitalisme. Donc voilà, il n'y a pas d'autre.
Voilà, mais c'est pas le capitalisme. Ils n'ont pas compris.
Mes trois militants du NPA sûrs sont dans la salle. Et le capitalisme se sert beaucoup des éco-gestes en disant c'est un problème de responsabilité individuelle. Si on ne change pas, s'il n'y a pas de changement structurel, c'est de votre faute. Parce que vous ne faites pas les gestes qu'il faut. Parce que, en gros, vous ne nous mettez pas un peu la pression, comme tu viens de dire. Vous ne nous mettez pas la pression, pardon. Or, c'est l'inverse. C'est eux qui branlent rien alors qu'ils ont toutes les manettes pour agir. C'est ça, en fait. Faut inverser le rapport de domination. Eux, ils te font croire que c'est de ta faute. Mais ils font ça en permanence. Ils font ça sur tous les sujets. Si t'es au chômage, c'est de ta faute. Si t'es une femme battue, faut te barrer. C'est de ta faute. Faut porter plainte. C'est parce que tu fais pas le taf. Dès que t'es en situation de dominer, alors que c'est eux qui te dominent, ils vont te faire croire que c'est de ta faute. T'es dominé, mais c'est de ta faute. Donc, il serait temps qu'ils aillent peut-être plus se faire cuire le cul.
D'ailleurs, je me permets de faire la promotion d'un spectacle sur la colère qui s'appelle Calme, qui est mon propre spectacle. C'est un peu la morale de l'histoire aussi. Et donc, c'est tous les jeudis, vendredis, samedi au Palais des Glaces à 19h et je parle de colère et de violence légitime. Voilà. On va parler d'un deuxième livre que tu as écrit, enfin t'en as écrit 2 millions, mais un livre qui s'appelle Petite éloge de la médiocrité aux éditions Les Pérégrines, qui m'a beaucoup touchée. Et donc on va passer à la deuxième partie. En gros, ce livre, c'est un hymne à la glandouille, à la simplicité et surtout une insulte au capitalisme. Et pour moi, j'ai l'impression que tout ton comportement est une insulte au capitalisme. Notamment la façon dont tu fais ton travail et avec laquelle tu fais tes spectacles et tout. Et il y a quelque chose dans tout ce que tu fais qui est de l'ordre de lutter contre les excès et ça me plaît. Dans cette deuxième partie, on va parler d'être star écolo. Je suppose que tu n'aimes pas ce mot. Et d'humour engagé. Dans le livre, tu dis « La fable dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous fait croire que l'abondance de biens nous rendra heureux. » Elle est peuplée de héros, des chefs d'entreprise qui réussissent, des sportifs qui déchaînent les foules, des stars qui défilent devant le crépitement des flashs. Elle porte en elle le mensonge du « tout est possible ». Et toi, tu cartonnes, tu remplis tes salles, tes moments Meurice font 1 600 000 écoutes par jour. Et pourtant, c'est vrai que malgré le carton, tu as l'air de faire ton travail avec le cœur, avec la conviction, des valeurs. Et pourtant, c'est tentant de se dire « je le mérite, j'ai travaillé dur, je suis un héros ». Est-ce que tu as déjà eu des moments où tu as pris la grosse tête ?
Bah, c'est difficile comme question, c'est pas à moi de le dire, j'ai envie de te répondre.
Bah, j'ai justement un j'ai... enregistrement de... Non,
T'as fait un micro-trottoir. Ouais, il a trop la grosse tête. Ouais, c'est un connard.
Je voulais trop le faire, mais j'ai pas eu le temps.
T'aurais pu.
Personne te connaissait. Guillaume quoi ?
Mais tu viens de dire l'inverse, putain.
Oui, c'est faux.
La cohérence, c'est comme la viande, il y a un truc qui va pas, là.
C'est vrai. Ok, je vais être végétarienne, ok. Ok, c'est décidé maintenant.
Non, j'ai
je le jure. Ah, ok. Ok.
Ouais. Tu couperas pas, hein?
Non, je couperai pas.
Tu coupes, là, ces interviews ou pas? Ou tu mets tout, tu balances tout comme ça?
Je ne coupe absolument jamais. Ah, aucune hésitation et aucun balbutiement de ma part.
Elle doit couper de ouf.
Non, je couperai pas.
Et pour répondre quand même à ta question, non, il n'y a pas de moment où je suis fier de ce que je fais. Mais je vois même pas la raison d'être fier. Déjà, quand t'es humoriste, t'es le schtroumpf farceur dans les schtroumpfs, quoi. T'es là, ah, je fais un cadeau, voilà, le mec qui est fier. T'as des humoristes qui se prennent au sérieux.
Bah, y a plein d'humoristes qui se prennent au sérieux.
Bah oui, mais pour moi, je vois ça, c'est comme un peu de l'art contemporain, quoi. Je me dis, la personne fait une performance et tu vois. J'ai souvent ça, d'ailleurs. Mais bon, on pourrait digresser, mais... Souvent, je pensais ça de Marlène Schiappa. Ah bon,
bon. Ah,
je fais une petite digression, bah, à un moment j'étais sûr que c'était un prank et qu'à un moment donné elle allait dire mais non, en fait je suis une comédienne depuis le début, je dis de la merde exprès, c'est un happening. Et a priori non, bon voilà. Ou alors pas encore, elle pousse vraiment le truc vraiment très loin, c'est Andy Kaufman la meuf. Bref, non, je vois pas de raison d'être fier. Et je parlais de mes parents tout à l'heure, moi je suis né dans un... C'était un milieu modeste, mes parents étaient commerçants, ils taffaient comme des oufs, mais c'est quand même de l'ordre de la bourgeoisie culturelle, parce que c'était une maison de la presse, il y avait des bouquins à lire, j'avais pas la télé, c'est des parents assez 68ards, donc j'ai eu une éducation qui m'a permis d'avoir confiance. Je suis un mec blanc, hétérosexuel, donc je suis arrivé...
Ouh,
salaud. Pardon. Non, mais c'est vrai que je suis arrivé dans la vie... Et
humoriste.
Et je suis arrivé dans la vie et la vie elle m'a dit bah c'est cool, écoute, tout est à dispo, ah, voilà, oh, tu peux faire ça,
un sein,
voilà, bon, voilà, voilà, oh c'est Gérard, voilà. Donc j'ai pas de mérite et j'ai pas mal de problèmes à comprendre cette notion de mérite.
Tu écris tous les efforts que nous aurons produits pour tenter de paraître autre chose que médiocre seront effacés, balayés par le temps. La mort nous réserve à toutes et à tous une égalité de traitement radical. Humoriste.
Attends, t'as tiré la punchline, t'es dégueulasse.
Bah oui, mais c'était mon but, c'était de casser l'ambiance.
Vas-y. La mort est communiste. C'était la...
Bah personne n'a rigolé.
Bah oui, parce que forcément... Elle coupe la blague au milieu, elle est gonflée celle-là.
Non mais en vrai, est-ce que tu penses souvent à la mort vu que tu m'as fait 10 vannes avant que je monte sur scène? Et est-ce que
des
ça,
autres, oui, la mort des autres.
Ouais, non mais vraiment?
Non, pas du tout. C'est juste pour dire qu'au final, c'est assez vain ce qu'on est en train de faire. Et donc ça sert à rien de se prendre la tête et d'essayer d'être... L'intérêt, c'est de kiffer et de faire en sorte que tout le monde puisse kiffer.
Oui,
mon discours fait assez livre de développement personnel. Donc j'ai envie de me crever les yeux avec des fourchettes.
C'est souvent...
Mais l'idée du livre, c'est pas celle-là. L'idée du livre, c'est de faire un livre. Alors j'emprunte l'expression à un sociologue que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nicolas Framont, qui a écrit un extraordinaire livre qui s'appelle Parasite, où il compare la bourgeoisie à des parasites. C'est argumenté, c'est assez fabuleux. Et lui dit, c'est plutôt du développement collectif. Voilà. Je dis que ce qui peut nous sauver de notre médiocrité, c'est de la mettre en commun. Ce qu'on fait ce soir, c'est assez formidable pour ça. La Convention citoyenne, pardon, j'arrive pas à le dire.
La Convention citoyenne
était un acte assez formidable, puisque revoyez l'épisode avec Cyril Dion, il explique très bien que comme c'est un tirage au sort... J'ai bossé. Comme c'est un tirage au sort, t'avais des climato-sceptiques qui se pointaient là et qui disaient « Non, moi, j'ai mon barbecue, j'ai ma bagnole, allez vous faire foutre. » Et en discutant avec des gens, en frottant leur médiocrité, ils sont vite aperçus... Enfin, vite, ça a duré un mois, je crois. Ben, c'est rapide, quand même, tu vois. Ils sont vite aperçus qu'il y avait un consensus scientifique, que tout le monde ne vivait pas comme lui, etc., etc. Donc, je crois beaucoup à ça, ouais. Au collectif, madame.
Incroyable. Mais c'est vrai que quand tu dis oui, la vie c'est pour kiffer, etc., bah, c'est souvent des discours de gens qui n'en ont rien à foutre. Et là, tu dis que t'en as rien à foutre, mais tes combats,
Oui, parce que souvent, les discours comme ça, qui peuvent être des discours de gauche, sont assez lénifiants. Enfin, quand je dis collectif, c'est pas on va pas vivre en collectivité dans une yourte avec des sarouels, quoi. C'est souvent le cliché auquel on est assimilé. Je veux dire que moi, j'ai rien contre la liberté individuelle, mais si elle est partagée. On peut pas être heureux dans un océan de malheur, je sais plus qui disait ça, et je le crois assez, quoi. Je crois même pas que Bernard Arnault, il soit heureux. Personne n'est heureux d'enjamber un SDF en sortant de chez lui, c'est pas possible. Donc Bernard Arnault, d'ailleurs, il le fait pas, parce qu'il vit dans des endroits reculés, dans des yachts, etc. Ces mecs-là se planquent, je pense même pas que ça les épanouisse tellement, c'est plus de l'ordre de la maladie mentale d'accumuler autant de pognon. C'est vrai, c'est des sociopathes, en fait,
et
les
on
types.
Et on se sent tous désolés pour Bernard Arnault, ce pauvre jeune homme.
Donc moi, je dirais à Bernard, tu vas donner de l'argent, tu vas partager, on va te taxer, c'est pour ton bien. Regarde, avec ton pognon, on va construire deux hôpitaux.
On lui enverra la vidéo.
Tu vas être fier de toi, Bernard. Tu pourras dire, si tu veux, tu viens l'inaugurer. Allez, si tu veux, tu coupes le ruban. Et voilà, t'auras fait un truc chouette dans ta vie, au lieu de vendre des sacs de merde, là. Allez voir Calme, le spectacle de Swan Périssé. Je me suis énervé.
En vrai, ça fait du bien de t'écouter et d'écouter tes chroniques. Et tes questions aux gens de droite sont tellement simples et pures que je trouve que ça donne le sentiment d'un monde idéal. Ça ressemblerait à quoi nos vies sans la violence du capitalisme ? Vous avez 3 heures.
Ah là, il faudrait plus que ça. Je pense qu'on pourrait... Alors, mon programme politique... En deux axes. Je pense qu'il y a deux axes. Répartir et ralentir. Je les mets dans cet ordre-là parce que tu peux pas dire à quelqu'un qui subit toute sa vie des pressions de son patron, de son mec, des injonctions, etc. Tu peux pas dire à quelqu'un comme ça, il faut sauver la planète, tu comprends les ours blancs. Il y a une urgence que la personne elle a à gérer ici et maintenant que tu peux pas lui nier. Donc d'abord, il faut faire en sorte que tous les gens puissent s'épanouir, donc ça passe par un partage des richesses pur et simple, et ensuite ce partage des richesses, il faut pas qu'il passe par chacun à 3 iPhones, sinon c'est stupide et contre-productif. Donc d'abord répartir, chacun que chacun puisse effectivement avoir les moyens de vivre correctement, et ensuite ralentir et rendre la sobriété heureuse. La sobriété, c'est un truc vu comme un truc pénible, quoi, chiant, alors que moi je pense que c'est vraiment l'inverse, quoi. Tout le monde est pige assez facilement que passer du temps avec ses enfants, c'est mieux que de passer 8 heures par jour dans un boulot qu'il n'aime pas. Or, la réalité des faits, aujourd'hui, la réalité sociologique de la société, c'est plutôt l'inverse. Je l'imagine souvent qu'on est une télé-réalité pour des extraterrestres. Et je pense que vraiment, ils rigolent, quoi. Et j'en parle un peu dans le bouquin, mais je pense qu'ils, tu sais, ils regardent la France, ils font « Oh putain, ils ont élu un banquier d'affaires, oh les cons, oh les débiles !» Le gars, il va gérer les hôpitaux et les crèches, n'importe quoi. Et dès que tu prends un peu de recul sur notre manière de vivre, tu vois bien que ça va pas. Et je pense que le point de bascule pour changer ça est pas si loin. Parce que là, ça paraît un discours un peu utopique, mais si tu disais au sortir de la guerre en 45, quand tout était détruit, on va faire la sécurité sociale, les médicaments seront remboursés. Les gars, ils passaient pour des oufs, quoi. Ils disaient, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu dis, Bernard ? Il s'appelait pas Bernard, mais Ambroise Croizat. Mais excuse-nous, Ambroise. Déjà, ton prénom est chelou. Donc voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question.
Oui, c'est bien. C'est très émouvant.
Répartir, ralentir.
Mais,
voilà.
Ouais, mais tu dis, on n'est pas loin, mais j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un gros changement très radical et très violent au moment du confinement. Où notamment on a vu qu'on pouvait arrêter plein d'activités polluantes facilement et on aurait pu reconvertir dans la foulée. Et en fait, c'est reparti de pire en pire. Donc tu dis c'est pas si loin, mais j'ai l'impression que... j'allais dire rien de plus violent ne pourrait nous arriver. Malheureusement, je sais que beaucoup de choses plus violentes pourraient nous arriver, mais que là, on a eu une petite opportunité et que c'était... ça n'a pas été exploité, quoi.
Certes. Je vois ouais. Ce que tu veux dire, le monde d'après, etc., ouais. etc. Oui, non, ça n'a pas été exploité, mais de toute façon, on ne va pas avoir le choix. À un moment donné, on n'aura pas le choix. Donc, soit c'est un peu ce que le discours des collapsologues, qui est un peu anxiogène parfois, mais ils disent ça. Ils disent il faut juste que cette transformation, que ce réchauffement climatique se passe le moins mal possible pour l'espèce humaine. En fait, c'est ça ouais. qu'ils disent. Parce que maintenant, on sait qu'il y aura, on connaît à peu près les conséquences, on les voit déjà pas mal autour de nous. Donc, il faut faire en sorte que ça se passe le moins mal possible. Or, on est confronté un peu comme, si tu veux, une prise d'otage. C'est-à-dire que ceux qui ont les manettes sont des forcenés, ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Ils voient bien que c'est en train de se casser la gueule. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi dangereux, d'ailleurs. C'est pour ça que sur CNews, ils hurlent toute la journée. Parce qu'ils savent que leur vieux monde, il est en train de se casser la gueule. C'est terminé pour eux. C'est fini, quoi. Ils vivront plus leur jeunesse. Pour ça, ils n'arrêtent pas de dire que c'était mieux avant. Mais c'est parce qu'ils étaient jeunes, en fait, avant. Tu vois. C'est toi qui étais mieux avant. Maintenant, tu n'arrives plus à bander. OK, c'est chaud, mais désolé, c'est pas la peine. Non, mais c'est vrai. Et donc, je pense qu'ils, consciemment ou inconsciemment, ils sont au courant de ça. Et c'est pour ça que ça les rend dangereux. C'est vraiment l'équivalent d'une bête blessée dans un fossé. C'est là où elle est la plus dangereuse, quoi. Si tu dis, bah attends, tout doux, elle va te griffer. Donc, ils sont capables, au nom des privilèges qu'ils ne veulent pas lâcher, d'emmener toute une planète, en tout cas toute une espèce, au casse-pipe. Et donc, le danger, il est là.
Et on va enchaîner avec un petit jeu. C'est parti. Ce jeu s'appelle le jeu du Kikadi des humoristes.
Ok.
Ça va être des bonnes blagues. Vous inquiétez pas, on va péter un coup. Quand t'étais petit, tu n'apprenais aucun cours par cœur. T'étais pas mal nul. Pardon. Mais apparemment, tu connaissais des sketchs d'humoristes par cœur. Et je crois... Je suis pas sûre, mais je crois qu'il y a un prof qui t'a dit « Ah bah, ça rentre mieux que les cours, hein !» J'espère qu'il parlait des vannes des humoristes. Je me souviens plus où est-ce que j'ai lu ça. Je te propose un petit jeu, une sorte de Kikadi des humoristes. Je vais te dire des phrases d'humoristes de ton époque, donc des phrases de Victor Hugo. Moi aussi, je suis humoriste. Non, c'est plutôt des humoristes qui ont eu leur fame dans les années 90. Et toi, tu dois retrouver qui est l'auteur. Tu es prêt?
Ouais.
Quel est l'humoriste de génie qui a dit « Un homme qui boit, c'est moche. Une femme qui boit, faut en profiter. »
Oh la vache.
Les années 90, cette belle époque.
Bah là, j'ai envie de dire Bigard, mais...
C'était Franck Dubosc.
C'est un déconné ?
Eh oui, ouais, ouais, vraiment, assumé, pas de soucis. Et personne ne rigole. Qui a dit « Une fois rien, c'est rien. Deux fois rien, c'est pas beaucoup. » Mais pour trois fois rien, on peut déjà s'acheter quelque chose.
C'est vache, je sais pas, les années 90.
Et pour pas cher. Ça, non, c'est un peu avant.
Bah, c'est Raymond DeVos, c'est clairement avant.
Ouais, écoute, bravo, il a trouvé, Raymond DeVos.
Ah ouais.
Quel humoriste facile a prononcé cette phrase. Certaines femmes disent que le jour de leur accouchement était le plus beau jour de leur vie. Je me demande à quoi ressemblent les autres jours de leur vie. Il essaie de deviner et après je vous donne la parole.
Ah, je sais pas.
Oh, Guigui !
Oh non, mais là, c'est les années 90, ça, t'es sûr ?
Florence Foresti !
Ah, Florence Foresti ! Ah ouais, ah ouais.
Bon, c'était pas dans les années 90.
Ouais, ouais, ah, bah,
ça va, là, l'attaché de presse de Florence ? Vous avez compris, quoi, c'est des trucs qu'on regardait, on la regarde encore, j'ai vu son spectacle de génie la semaine dernière, mais elle était populaire aussi dans les années 90, voilà. Putain, mais vous êtes tatillon! Tatillonne! Qui a prononcé cette.
Donc là, ça va être Kev Adams à tous les coups.
Excellente vanne! Excellente vanne! Il paraît que la charcuterie, vanne de vegan, donnerait le cancer colorectal. Mais attends, mais je comprends pas. Ils le mettent où, le saucisson, les gens?
Ah putain, j'ai déjà entendu ça. Mais ça, c'est pas les années 90.
Non, mais bah, c'est pas grave.
Bon, bah arrête avec ce truc. Mais moi, bah, ça me fout. Moi, je suis là, genre, Eli Kaku, tu vois, mais pas du tout.
C'était des gens qui faisaient déjà de l'humour dans les années 90. Mais après, il y a des gens, ils ont une carrière incroyable jusqu'à aujourd'hui. Je vais pas dire, oui, mais c'était 99. C'est bon. T'as pas regardé d'humoriste depuis 2001?
Ah putain, non mais parce que ça me rend ouf, parce que je l'ai déjà entendu, mais non, je sais pas, soufflez, trichon.
Mais c'est Anne Romanoff, bande d'ignards.
Mais t'as dit on humoriste.
Oh non.
Respecte pas
attends,
du tout les règles
pas.
Du jeu.
Je ne cautionne pas.
Oh la sororité.
Qui est l'auteur de cette blague? Est-ce que tu épouserais une noire? Tout le monde a peur de la réponse. Et son... partenaire de scène répond « Je ne suis pas sûr que ma femme serait d'accord. Oh, » oh, oh.
Ah ouais, c'est pas un truc... Non, j'allais dire Palma de Larocque, mais non, parce qu'ils étaient censés être... Chevalier d'Espalès, ah ouais.
Ouais, qui a soufflé ? Oh, ouais. Super ! Ouais, c'est vrai. Bravo à monsieur. C'est Chevalier d'Espalès. Et enfin, qui a dit « Ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas ?»
Le meilleur.
Le meilleur des humoristes. Le roi de l'humour, Emmanuel Macron. Quel sketch, on s'en souvient encore.
On a ri.
J'ai... Ah, ben,
on a bien joué, hein.
On a bien rigolé.
Ça m'a épuisé, ce jeu.
Toi,
ouais.
Tu t'interroges sur l'utilité de tes vannes. C'est bizarre de dire comme ça, mais...
Ouais.
J'ai une vanne sur scène où je raconte... un truc qui m'est arrivé. En gros, je raconte que je suis en train d'avoir une... Donc, dans mon spectacle calme, je suis en train de raconter que je couche... Je raconte que je suis en train de coucher avec un mec et que c'est la première fois qu'on fait l'amour et qu'on est en train de regarder tous les deux dans la même direction. C'est mon côté poète. Et je dis, à un moment, je dis et je sens qu'il essaye de mettre quelque chose entre mes fesses. Et je fais « Bon ». Et dans mon spectacle, j'explique que je me retourne et que je vous jure, il a fait comme ça. Pour l'audio guide, je lève les mains comme si... Oh, les mains. Et donc, donc je dis, tu sais que c'est pas parce que tu ne vois pas mon visage que ça n'est plus mon corps. Hein. Donc je fais plein de blagues là-dessus, etc. Et donc c'est rigolo, on rigole, etc. Et en fait, ce que je raconte, c'est que cet homme a essayé de me violer. Et Je sais que c'est nerveux.
Le fan club de Francis Holm se régale.
Et donc parfois quand j'écris des vannes comme ça à la maison, je me dis je suis un génie. Tout le monde va rigoler et comprendre que c'est extrêmement problématique d'avoir ce comportement. Et en même temps parfois je me dis quand je fais cette vanne, ça se trouve il y a des violeurs qui sont là. Mais enculé à sec, c'est un peu rigolo. Et donc, je...
C'est vrai que t'as un gros public de violeurs.
Et donc...
Émile Louis Comedy Club, tu joues.
C'est ça. Ma question, c'est... Est-ce que parfois, t'as l'impression que tes vannes, elles sont contre-productives ? Genre, tu fais des blagues sur manger trop de foie gras, et il y a plein de gens qui doivent être là. Ah, trop rigolo, ça peut pas être si grave.
Mais mes blagues, elles ont pas vocation à être productives, donc je me pose même pas la question. Et c'est assez difficile, là, on va en revenir à mon actualité récente, mais de prévoir l'impact que peut avoir telle ou telle blague. Il y a quand même beaucoup de choses qui t'échappent. Alors évidemment, quand toi t'écris, tu te dis, bon ben voilà, mon intention c'est celle-là, t'essayes qu'elle soit le plus précis possible. Souvent, si c'est toi qui fais cette blague-là, ce dont tu viens de parler, si c'est toi qui l'as fait sur scène, l'intention, on la capte assez facilement, quoi. C'est souvent...
C'est pas comme si c'était un mec qui dit, là j'essaie de lui mettre un truc entre les fesses, c'est le truc...
Non mais ouais,
elle
c'est
se retourne, je fais...
Ouais.
C'est le truc... Horrible. De... Bon, ça me fait.
Vous avez eu le rire gras de tout à l'heure là. Ouais, carrément. Mais donc c'est sur tout ça. Mais après, il y a toute une part de oui, tu gères pas comment ta blague elle va être prise, récupérée, en plus maintenant découpée sur les réseaux sociaux. Marcel Duchamp disait, c'est le spectateur qui fait l'œuvre. Bon. On fait des blagues, mais quand même, il y a un moment donné, c'est la rencontre de ce que tu as dit avec la personne qui écoute qui va faire comment elle va l'interpréter, quand même, pas mal. Quoi.
Mais parfois, avec les gens woke, et Dieu sait que je suis woke et qu'ici, il y a des gens woke, parfois, on te saute à la gorge pour des vannes que tu as faites, parce qu'on dit « Ah, tu trouves ça drôle de faire des blagues là-dessus, etc. Et » Et moi, je trouve ça difficile de jauger.
Ben oui, enfin, l'astuce, c'est quand même d'essayer de pas forcément faire une blague pour rassembler et plaire à tout le monde. Ouais. Parce que ça a beaucoup de chances d'échouer, quand même. Ouais. J'entends souvent ça dans les débats, tout le monde dit « l'humour, c'est fait pour rassembler », mais pas du tout. Mais vraiment, c'est même quasiment l'inverse, quoi. C'est normal, chacun a ses humoristes préférés, son style qui lui correspond le plus, et tant mieux. Et donc, forcément, si tu regardes tous les commentaires... De toute façon, c'est simple, mais toi-même, tu sais, si tu regardes tous les commentaires sur tout ce que tu fais... Soit t'es un génie, soit t'es une énorme merde. Je pense qu'on se situe entre les deux. Et que c'est déjà assez formidable comme ça, tu vois.
Et là, ce qu'on a vu avec ce jeu, c'est qu'il y a parfois l'humour, c'est fait pour inverser la domination, ça c'est chouette et tout. Mais toi, par exemple, quand tu tapes sur les chasseurs ou les gens de droite, etc., t'as pas justement parfois l'impression d'exclure ou d'humilier ?
Je suis pas... tout à fait d'accord sur l'inversion du rapport de domination. Je pense qu'au mieux, ça l'annule. C'est-à-dire quand on faisait des blagues avec Charline dans la matinale sur Darmanin, devant Darmanin. Non, je ne sais pas comment ça, mais... Mais démission, ouais. By the way, démission, oui. Mais on n'inversait pas le rapport de domination. Parce qu'on n'avait pas, on le dominait pas. Juste, il était obligé de fermer sa gueule pendant 2 minutes 15 et de nous écouter. Donc, au bout d'un moment, on dit, attends...
Ça fait plaisir.
Et donc, ça permet de déconstruire, on va dire, de faire tomber les gens de leur piédestal. Le mec arrive avec un petit costard en disant, je suis ministre. Donc, c'est pour ça qu'on s'amusait à les tutoyer aussi, à l'époque. Parce que, voilà, pour avoir un rapport d'égal à égal. Donc, je ne suis pas d'accord avec le fait de taper quand tu dis, tu tapes sur les chasseurs, etc. Moi, je ne tape pas, je tape sur personne, je fais des blagues. C'est tout, quoi. Donc, j'aime pas trop ce vocabulaire belliqueux de tu prends pour cible. D'ailleurs, anecdote, j'ai été donc auditionné à la PJ suite à une blague sur Benjamin Netanyahou. Et dans le rapport, à la fin, tu relis ta déposition, etc. Ça dure 2 heures, c'est très long. Et elle avait noté, l'OPJ, je cible les gens de pouvoir en mettant ça dans ma voix. Je dis ça, je suis sûr que je l'ai pas dit parce que c'est pas du tout mon vocabulaire. Donc, je l'ai fait corriger. Et moi, j'ai juste l'impression de faire des blagues. Après, je fais pas. Les gens, que tu dis les gens de droite, en fait, c'est quasi les gens ne m'intéressent pas. C'est les discours qui m'intéressent. Et j'aime bien trouver les contradictions, les failles de raisonnement qu'on a tous et toutes dans nos discours, dans l'espèce de prêt-à-penser que notre cerveau, l'espèce de bouillie que notre cerveau il fait pour vivre tous les jours, pour discuter avec les gens et pour avoir des rapports sociaux. J'aime bien là-dedans déceler les trucs qui ne vont pas. D'où le végétarisme, les incohérences que tout le monde a. Et c'est ça qui me plaît. Et c'est pour ça que parfois les gens pensent que je suis vraiment chiant quand ils me côtoient au quotidien, parce que même les profs, tu vois, je faisais ça avec les profs, ça les rendait ouf. Ils disaient, ouais, mais madame, vous avez dit l'inverse il y a 5 minutes, tu vois. Hyper chiant.
Petit con.
Un connard, en fait, voilà, pour bien définir. Non, mais c'est vrai, voilà. C'est pour ça que je le dis souvent, mais je ferai pas ce que je fais en micro-trottoir, je ferai pas à la télé. Parce que je veux pas que les gens ils se reconnaissent, ils soient reconnus le lendemain dans la rue en disant, ah, mais t'as été bien raciste à la télé hier. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le discours et pourquoi. Les gens, enfin nous, ont dit des phrases qu'on a entendues sans les avoir remis en question. Et si on questionne ces phrases, le raisonnement, il se casse la gueule. Et souvent, mes questionnements, ils sont juste à base de pourquoi. Ou de vous êtes sûr. Et tu mets un peu de doute dans la tête des gens et normalement, t'as juste à regarder le spectacle.
Trop bien.
Faites-le chez vous, hein. C'est vraiment un truc très intéressant à faire.
En 2022, tu as coécrit un livre avec Nathalie Gindreau, c'est comme ça qu'on
ouais,
prononce.
Oui, Nathalie Gindreau. C'est plutôt elle qui l'a écrit et moi j'ai rajouté des blagues dedans.
Ok, d'accord. En 2022, tu as rajouté des vannes dans un livre que Nathalie Gindreau a écrit. Ça s'appelait « Le fin mot de l'histoire de France en 200 expressions ». Et vous aviez écrit une définition qui disait « Faire long feu, expression remplacée aujourd'hui par, ouvrez les guillemets, révéler sur Canal+, les malversations de Vincent Bolloré ». Fermez les guillemets. Et ta maison d'édition a voulu censurer votre blague, a repoussé,
elle l'a fait.
A censuré la blague. Et
parce qu'elle appartenait à Vincent Bolloré, la maison
voilà,
d'édition.
C'est ça. Donc est-ce qu'on voilà.
Ouais, c'était ça l'astuce.
Est-ce que aujourd'hui les milliardaires, je connais la réponse, mais je voudrais avoir ton avis dessus. Est-ce que les milliardaires décident de ce qu'on voit, de ce qu'on lit aujourd'hui?
Oui, et c'est pas tant un problème de milliardaires qu'un problème de structure. On va revenir à la structure politique dans laquelle on vit. Si Bolloré il fait ça, c'est parce qu'il se sent le pouvoir de le faire. Donc là, moi, j'ai porté l'affaire en justice, donc on verra techniquement parlant s'il avait le droit de le faire. Peut-être qu'il s'est foiré là-dessus. Mais en tout cas, on ne peut pas reprocher à Bernard Arnault d'être multimilliardaire. Le système lui permet d'être multimilliardaire. Donc pourquoi il ne le ferait pas? Pourquoi lui, de son propre chef, déciderait d'être vertueux et de créer des hôpitaux, comme on disait tout à l'heure? Donc c'est pour ça que c'est collectivement qu'on doit s'organiser pour empêcher de nuire ces gens-là. Ils ont un réel pouvoir de nuisance. On est en train d'en crever de ces... on dit les 1%, mais c'est beaucoup moins que ça, quoi. Et donc l'urgence, elle est là. Pour moi, vraiment, l'urgence, elle est là. Autant écologique, évidemment, que sociale. Voilà, donc je n'ai rien contre Bernard Arnault, personnellement, ni même contre Vincent Bolloré. Ils sont zinzins, ils mériteraient d'être traités... Je l'ai dit tout à l'heure, je pense, médicalement, psychiatriquement. J'ai rien contre Emmanuel Macron non plus. Ça sert à rien de gueuler Macron démission si c'est pour mettre, je sais pas qui, Valérie Pécresse à la place. Ça ne changera rien. Le problème, c'est la Ve République. Le problème, c'est la structure qui permet à un banquier d'affaires de gérer l'intérêt général. Ça ne devrait pas être possible. Et on n'est pas les seuls, tu vois.
Khmer vert, Khmer vert, éco-terroriste. J'ai vu que sur Twitter, je suis pas sur Twitter, mais j'ai vu qu'il m'avait tagué, je crois que j'ai 1000 followers. Tu avais écrit « À ce soir, les éco-terroristes
!» J'ai tagué pour que tu prennes un peu des haters de moi.
Militant climat radicalisé, talibio.
Talibio ?
Ouais.
Ouais, c'est pas mal, c'est créatif en fait un peu. Hein.
Les anti-changements de système nous ont trouvé plein de petits surnoms qui malheureusement rentrent dans les crânes. Et c'est quoi ton conseil pour rester debout et contre-attaquer ?
Bah, ce qui marche pas mal, c'est bah, ce que j'ai pratiqué là en écrivant ce post, c'est ce qu'on appelle l'inversion du stigmate. C'est-à-dire que quand on te traite, nous on nous traite beaucoup d'islamo-gauchistes, bah, dès que tu te définis toi-même comme islamo-gauchiste, la personne elle peut plus te dire islamo-gauchiste ! Parce que tu dis, ouais, je sais, je viens de le dire, en fait, c'est marqué dans, mon, dans ma bio Twitter. Donc, donc ça marche quand même pas mal. Et si la personne te le dit en face et qu'une discussion s'engage, alors là, il faut lui demander qu'est-ce qui se cache derrière ça, pourquoi il dit ça, on en revient au fameux pourquoi, et qu'est-ce que c'est pour lui un éco-terroriste ? Parce que là, je pense qu'on va rigoler. Souvent, c'est pour ça aussi, j'en reviens à ta question sur le militantisme, pourquoi je ne me considère pas comme militant, c'est parce que moi, j'aime bien questionner. Et un militant, c'est vrai que ça va avoir, bah forcément, c'est sa fonction, on va dire, sociale, l'envie de convaincre et de dire « Ah, mais je pense ça et je pense que tu devrais penser ça ». Moi, c'est vrai que c'est quelque chose... Moi, c'est assez inefficace sur moi, par exemple. J'ai tendance à me braquer, mais je pense que c'est assez inefficace pour nous tous. Tu vois. Et le questionnement, c'est quelque chose d'un peu plus subtil, un peu plus marrant, un peu moins agressif. Et au final, la personne qui se rend compte toute seule, comme moi, je l'ai fait pour la viande, d'ailleurs, qu'elle dit de la merde et qu'il faut lâcher l'affaire. Donc, je pense qu'il y a on a que des avantages à questionner plutôt qu'à essayer d'imposer.
Merci Guillaume Meurice.
Ah, merci, c'était chouette. Merci beaucoup.
Attends, c'est pas fini, il y a une surprise.
C'est pas fini.
Guillaume, tu n'es peut-être pas au courant.
Il y a une chanson.
Oui, il y a une chanson à la fin.
Je suis venu que pour la chanson, hein, donc en vrai, je m'en fous.
Bah, c'est parce que t'as été déçu du roast, parce qu'au début tu m'as dit je suis venue que pour le roast. Maintenant la chanson s'il vous plaît. Non, je me suis rendu compte que quoi qu'il arriverait, on pourrait toujours essayer de chanter. Et donc traditionnellement, à la fin de Y'a plus de saison, je me lève et je fais chanter le public avec des mots clés de notre interview. Ça vous va? Allez, c'est parti. Toi tu peux soit chanter, soit regarder, soit taper des mains.
Ok.
Ne pars pas s'il te plaît, ça serait hyper vexant. Swanny aime les sushis. Swanny aime les sushis. Swanny aime les sushis. Swanny aime les sushis. Que cette partie du public, ok? Swanny.
Mais ne faites pas ça.
Aime les sushis. Swanny.
Refusez d'obéir. Surtout à Swan Périssé.
Aime les sushis.
Mais elle mange de la viande. Mais elle mange de la viande.
Aime les sushis. Swanny. Aime les sushis. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter.
Ouais, il faut arrêter, je pense.
Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est le petit con qui l'a dit. C'est le petit con qui l'a dit. C'est le petit con qui l'a dit. Il faut arrêter. Putain, mais Guillaume, reste concentré là, c'est incroyable.
J'ai les poils, j'ai les poils.
C'est un moment collectif là.
Non, mais c'est incroyable.
Je m'en fous, j'ai mon apron. Merci Guillaume d'être venu te foutre de ma gueule. Merci Guillaume, personne n'avait osé me roaster en retour. Mais je voudrais quand même rappeler. Que t'y es pas arrivé, espèce de petit insolent de merde.
Eh, je vous entends, hein, je suis là.
Guillaume Meurice, je te souhaite de recevoir plein de menaces de mort et parler personnes que je vais pas citer parce que je veux pas avoir de problème. Et aussi par les véganes, parce que j'ai pas peur des véganes. Merci Guillaume Meurice.
Merci Swann Périssé. Merci beaucoup.
Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Il y a plus de saison. Une émission, ça se monte avec une équipe. Alors merci à l'Agence française de développement, sans qui ce programme n'existerait pas. Et cet épisode existe aussi en vidéo sur ma chaîne Swann Périssé. Et je voudrais remercier Valentine Mabille à la direction de production, Nicolas Béguet, le réalisateur vidéo et son équipe image, Fuchsia, la décoratrice, le décor est incroyable, et Mime, le compositeur. Merci à l'équipe du studio du podcast Binge Audio qui coproduit avec moi cette émission, en particulier Quentin Bresson à la réalisation audio, Camille Codor à la production, Lise Niederkorn et Jeanne Longuigny à la communication et Joël Ronez, mon coproducteur. Et enfin merci à Nicolas Beublé qui a fait toutes les recherches intenses pour cet épisode et à mon co-auteur Mathieu Beigbeder, sans qui toutes ces blagues drôles et lourdes n'existeraient pas. Merci encore à Tilt d'avoir permis la réalisation de ce super podcast vidéo spectacle. Il y a plus de saison. N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram de Tilt Officiel. Ça s'écrit @TILT-officiel avec un seul L à la fin et pas de E pour apprendre plein de choses.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.